Et maintenant, retrouvons la chronique de René Akrich sur Radio Futé.
Nos chers auditeurs de Radio Futé, shalom, René Akrich depuis Revon. Dès son début, l'histoire conçue par l'homme place l'humanité sous le signe de la violence. La lecture du chapitre 4 que nous avons lu la semaine dernière dans la Genèse est totalement ahurissante, mais tout aussi dramatique, émouvante pour nous qui avons la nette impression de vivre encore et toujours dans ce même temps. Nous sommes nous-mêmes Caïn et Abel, car beaucoup d'inhumanité vibre parmi et autour de nous. Nos deux premiers êtres humains sont l'un près de l'autre parce qu'ils sont frères. Et soudain, l'un se dresse contre l'autre et le tue. Disons-le sans crainte, ce que l'homme invente dans ce chapitre, c'est la mort. Certes, Dieu avait-il prévenu Adam et Ève, vous mourrez. Toutefois, cela paraissait comme un risque virtuel, tant que tout demeurait dans le temps divin. Il y avait cette menace intimidante pour l'humanité, mais nul n'était mort encore. Adam et Ève, malgré leur faute, n'avaient pas péri. Le serpent même était encore et toujours présent dans cette aventure, bien que les humains soient propriétaires de leur propre histoire et capables de créer ce qu'ils engendrent principalement, c'est ici la mort. Abel est le premier homme qui trépasse et son décès ne survient pas dans l'ordre naturel des choses. La mise en garde divine d'une possible mort ne va pas s'accomplir au cours d'une primitive ruine physique de l'homme. Il y aurait peut-être alors un sentiment de satisfaction, d'accomplissement qui nous amènerait à inviter la mort dans certaines circonstances. Non, Abel n'a pas voulu mourir. Il voulait vivre, mais son frère Caïn l'a assassiné. Un récital d'inhumanité, mais aussi une sérénade d'échec. Dans cette chronique humaine profanée et générée par l'homme, serait-il possible de vivre uniquement contraint par les normes de violence? En vérité, ces hommes créent aussi, en premier lieu, le dévouement, puis la culture, la civilisation dans toute l'étendue du terme. Caïn bâtira une cité. Les descendants de ce même Caïn concevront l'agriculture comme un art, composeront la musique, imagineront aussi l'art de forger le fer. L'ensemble de ces activités reste les fruits de l'homme. Toutefois, il demeure encore empreint d'une charge plus que négative, car fourvoyé dans les méandres de relations inhumaines. Là sera l'échec. Là, tout devra disparaître englouti par le déluge. Qu'importe votre peine si celle-ci se termine dans la violence. Qu'importe vos efforts, justifiés ou non. Tout sera blâmé et voué au désastre. Inhumanité, deuil, malheur, voici les sujets de la tragédie. Qui sont les personnages acteurs de ce conflit? Qui encourage un pareil agrégat de catastrophes? Qui sont ces Abel et Caïn? Que symbolisent-ils pour que leur conduite soit autant pénétrée par les marques de la honte? L'opinion exprimée par les textes talmudiques et pareillement par les exégètes juifs du Moyen-Âge est d'une certaine manière plus élémentaire et plus sérieuse. Ce qui oppose ici Caïn et Abel, ce sont les frères. Ils nous révèlent un nouvel ordre, une lutte fratricide. L'homme devient l'adversaire de l'homme justement parce que tout homme est frère de l'autre. Au sein de la fraternité existe non seulement la formidable sollicitation de l'homme, les circonstances avec lesquelles il peut et doit indubitablement se raconter, mais encore les raisons de ses déboires. Caïn et Abel sont arrivés l'un à la suite de l'autre. La nature les dissocia pour un temps, juste l'essentiel, pour une céleste diversité, dirons-nous. Mais si céleste qu'ils se retrouvèrent côte à côte, tendrement, pour un devenir de fraternité. Au sein de ce concept vibre intensément le problème de l'homme, c'est là que le bât blesse. De prime abord, le silence d'Abel reste étrange, nul propos de sa part, il ne nous laisse aucun témoignage. Quant à Caïn, il se trouve être bien plus prolixe. Ce non-dialogue entre frères est un dialogue de sourds, le dialogue fatal, c'est l'impossible rencontre qui, forcément, s'achèvera dans la violence. L'un des frères ne fait couir, ne pipe mot. Fatalement, l'autre monopolise totalement le verbe. Et fatalement, tout rapport devient impossible. Le fraternel s'est fondu dans le silence de l'être muet, il nous reste l'homme seul et isolé. Les sages interprètent aussi les conséquences mentales qui transformeront si dramatiquement les hommes en souffre-douleur, de mal en pis dans les relations entre individus, dans les relations entre les peuples. Il s'agit là d'une difficulté de rapport probable ou improbable entre l'individu totalement instruit du projet divin et qui, de ce fait, déserte ce monde, et l'autre qui, à l'opposé, s'abandonne pleinement à la matière et à son bien d'avoir, se refusant à tout au-delà. À première vue, la rencontre semble possible, malgré les difficultés évidentes, inhérentes aux positions extrêmes des uns et des autres. La volonté de vivre ensemble, au mieux d'une réelle union fraternelle, d'une existence fraternelle, ne s'accomplira que dans la mesure où, conjointement, tout un chacun de ses frères consentira à devenir tout à la fois celui de l'ici-là et celui de l'au-delà. Ensemble, il nous faudra parvenir à cette part de vie immanente et transcendante, une portion du devenir immédiat et une portion du devenir transcendant. L'impossibilité pour l'être fraternel d'accepter une quelconque séparation entre l'un et l'autre l'entraîne vers une sublime aspiration en quête des traits d'union. L'existence fraternelle n'est que généreuse. Elle ne peut être que celle qui octroie à l'autre tout ce qu'elle possède. Chacun sachant se bonifier et se perpétuer dans la pleine cohérence qui enveloppe tout autant mon propre moi, mon espace peut et doit alors être aussi celui de mon frère. C'est à ces seules exigences que répond le concept de fraternité. Nous voilà frères sans aucune ligne de démarcation et peu importe nos desseins même pacifiques. Emmanuel Lévinas remarque que chacun est responsable d'autrui avant même d'avoir choisi de l'être. S'appuyant sur la question de Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Notre cher philosophe Emmanuel Lévinas y voit la révélation d'une responsabilité que Caïn n'a pas choisie. Il est frère d'Abel par son origine. Pour Lévinas, autrui ramène nécessairement à la responsabilité éthique. Il y a relation éthique quand l'autre n'est ni moyen, ni outil, ni caution, ni faire-valoir, mais qu'il déborde le projet d'assimilation. On pourrait dire de phagocytage. Quand l'autre n'est pas enfermé dans la sphère du même, qu'il refuse la conformité à un stéréotype culturel, par exemple. Qu'il se laisse découvrir comme appel, comme exigence éthique qui nous met en demeure de répondre à la question « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Lisons dans le texte midrashique l'entretien entre Dieu et Caïn suite au meurtre. Dieu interpelle Caïn et lui dit « Où est Abel ton frère ?» Alors Caïn répond d'abord « Si quelqu'un devait se poser cette question, c'est bien toi, Dieu, qui aurait dû te la poser. » Alors l'Éternel dit « La voix du sang de ton frère crie depuis le dessus du sol, et maintenant tu es maudit du sol qui a ouvert sa bouche pour prendre le sang de ton frère de ta main. Tu seras errant. » C'est le châtiment de Caïn. Néanmoins, celui-ci ne se considère pas comme irrémédiablement perdu et continue de s'épancher. Il parle encore au verset 13, Caïn dit à Dieu « Mon péché est trop grande est ma faute pour être porté. » Et au verset suivant encore, « Voici, tu m'as chassé en ce jour de dessus la face du sol, et devant ta face je me cacherai, je serai de tout temps m'évadant sur la terre, et quiconque me trouvera me massacrera. » Le Midrash demande que nous saisissions ce vocable, « porté » dans son sens propre. C'est incontestablement le verbe « porter ». Mon forfait est trop monstrueux pour être enduré. Jamais je n'aurais pris conscience de mon délit que tu ne m'aies convoqué face à moi-même. C'est un fardeau qui m'écrase et par lui me voilà réduit au néant. Caïn perpètre un fratricide, mais il n'est pas empêché de vivre à son tour. Le sujet formule comme une pensée expansive sur la question du mal présente après la perte. Caïn réfute même le châtiment et parvient à le modifier. Dieu ne tuera pas Caïn et n'autorise personne d'autre à le tuer. Il le défend en lui mettant un signe pour que nul ne le cogne et proscrit son futur assassin. Il devient porteur de l'ambivalence contenue dans ce mot. Il est à la fois celui que la main de l'homme ne peut atteindre, mais aussi le maudit. La punition est transformée en bannissement. Nous découvrons dans l'âme de Caïn cette polarité. Il est l'homme qui, inéluctablement, se retrouve face à face avec Dieu et avec l'homme, mais ce face à face n'est pas une simple rencontre. Il révèle une résistance exceptionnellement pénible qui acerre les difficultés d'opposition entre les hommes, le problème de la fraternité et aussi de la confrontation entre l'homme et Dieu. En ce début d'année, je vous souhaite Shana Tova, Surot Tovot, Yeshuot Venechamot, que nous n'entendons que de bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous et pour l'ensemble d'Israël. À la semaine prochaine, c'était Roni Akrish, depuis Hebron, Shabbat Shalom.
C'était la chronique de Roni Akrish sur Radio Futé.